France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reinhardt et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le dernier épisode de notre série sur le Canada. À l'heure des élections fédérales anticipées, on parlait lundi du patriotisme canadien réveillé par les provocations de Donald Trump. Mardi, des résultats des élections, les libéraux vainqueurs malgré eux. Hier, de l'hypocrisie consistant à se montrer soucieux d'écologie, d'environnement, tout en revendiquant être un paradis pour les entreprises minières. Aujourd'hui, les débats actuels sur l'immigration qui ressemblent à la fin d'un rêve canadien.
Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années.
When my parents got here in the 1970s, they were able to find an affordable.
Quand mes parents sont arrivés dans les années 70, ils pouvaient trouver un logement abordable, de bons emplois. Cette réalité n'existe plus vraiment. Et c'est ça le problème. Je crois que ce qui est arrivé au Canada, c'est qu'on a ouvert les vannes et on a laissé tout le monde entrer parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre.
Le système ne fonctionne pas. Il faut avoir un cap pendant une période de temps. Et je veux dire que les Canadiens, ils veulent accueillir des immigrants.
Ce n'est pas un problème de volonté ou d'ouverture aux autres, c'est un problème d'organisation et d'infrastructure pour les accueillir, dit ici en substance le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney, confirmé mardi dans les urnes et qui reprend en l'occurrence les mots et mesures de son prédécesseur Justin Trudeau. Limiter les arrivées tant qu'il n'y a pas assez de logements pour abriter ces nouvelles vies au Canada et élever des enfants, tant qu'il n'y a pas assez de médecins pour soigner tout le monde et que les administrations saturées ne peuvent plus suivre les dossiers de chacun avec le soin et l'attention nécessaires. Cette réserve, ces limites imposées à l'immigration sont très nouvelles au Canada. Votre fameux plombier polonais, nous on le veut, lançait Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec à la France des années 2000, que la directive Bolkestein inquiétait. Il faut dire que le Canada s'est construit avec et par l'immigration. Le multiculturalisme d'État a survécu à l'alternance des gouvernements libéraux et conservateurs et même Justin Trudeau avait ouvert grand les portes du pays dès son premier mandat, quand son voisin Donald Trump déjà disait « America first », lui disait « Bienvenue chez nous », notamment aux Syriens dès 2015. À quelle immigration le Canada se ferme-t-il et à qui reste-t-il ouvert? Est-il en train de remettre en cause son modèle multiculturel ou les deux questions sont distinctes? On va essayer de comprendre tout ça avec nos deux invités. Bonjour Françoise Lejeune.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique et nord-américaine des 18e et 19e siècles en particulier à l'Université de Nantes. Je vous remercie d'être avec nous depuis Nantes. Il est 5h04 à Montréal où vous êtes Martin Papillon. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et en tant qu'observateur privilégié qui êtes sur place, Martin Papillon, quelle place a d'abord pris l'immigration dans les thèmes de la campagne électorale, somme toute assez courte, mais qui a couru jusqu'à lundi, le jour du vote pour ces élections fédérales anticipées? Est-ce qu'on a beaucoup parlé d'immigration?
Eh bien, en fait, non, très peu. Et c'était tout de même surprenant. Il y a quelques mois à peine, avant l'arrivée de Donald Trump, on aurait pensé que l'immigration allait occuper une place importante dans la campagne électorale, mais l'arrivée de Donald Trump a complètement changé la donne. La guerre tarifaire, les menaces à la souveraineté canadienne que Trump répète, hein, que le Canada devrait devenir le 51e État américain, eh bien, toute cette attention a été focalisée sur ces enjeux. Ça a entraîné aussi, évidemment, une vague de patriotisme canadien dont vous avez sans doute parlé.
Lundi, voilà.
Et, en fait, ce qui est arrivé, c'est que tout discours qui se rapproche du discours trumpiste est devenu soudainement toxique, discrédité au Canada, y compris le discours anti-immigration là, qui résonne un peu avec les politiques trumpistes. Donc, on s'est retrouvé avec des partis politiques, finalement, qui évitaient de parler des thématiques, notamment l'immigration, qui sont prêts ou qui pourraient les associer finalement à Donald Trump.
Donc il n'y a même pas eu de volonté de la part non plus du candidat conservateur, Pierre Poilievre, qui avait misé au début de la campagne et mal lui en a pris sur une forme de ressemblance à Donald Trump dans le choix des mots ou la manière d'invectiver ses opposants. Pas de volonté non plus de sa part d'attiser une certaine colère, de faire porter à tous les nouveaux venus la responsabilité des dysfonctionnements dans la vie de tous les jours au Canada, Martin Papillon.
Non, voilà. En fait, déjà, il faut bien comprendre qu'au Canada, contrairement à plusieurs pays occidentaux, la question de l'immigration est beaucoup moins politisée. Elle l'a été plus dans les récentes années. Vous en avez parlé dans votre introduction. Mais toute chose étant égale, c'est une question qui ne fait pas l'objet d'une très, très forte politisation. Et c'était encore plus vrai, je dirais, dans la campagne actuelle où les partis ont vraiment hésité, notamment le Parti conservateur de Pierre Poilievre, à créer ou à attiser un clivage sur cette question.
Alors la question n'était pas non plus totalement absente des débats puisque Pierre Poilievre en l'occurrence et plusieurs conservateurs derrière lui ont milité pour une réduction des quotas plus importante encore que celle que Justin Trudeau avait entérinée à l'automne dernier. Mais sur quels arguments, Françoise Lejeune, avec quels mots, on a l'impression que ce qui était dénoncé c'était plutôt une sorte de manque d'anticipation de Justin Trudeau plutôt que une déferlante migratoire et tous les mots qu'on peut entendre en Europe ou aux États-Unis même aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, l'attaque de Poilievre contre les politiques d'immigration de Trudeau visait surtout Trudeau et visait aussi à le déstabiliser. Cette conversation avait commencé relativement tôt, à la fin de l'été 2024 et l'automne 2024, parce que il y avait eu un sondage. Alors, il y a différents sondages qui sont faits tous les ans. Il y a un sondage qui est fait par le ministère pour savoir ce que pensent les acteurs du multiculturalisme de l'état des lieux, donc chaque année, et c'est donné au Parlement avant le 1er novembre. Mais il y a aussi une entreprise de sondage qui a un contrat avec le gouvernement depuis les années 70, qui s'appelle Environix, et qui mesure tous les ans l'impression que les Canadiens ont sur le multiculturalisme ou sur le niveau d'immigration. Et dans le sondage qui était paru en octobre 2024, il était clairement indiqué que les Canadiens, pour je crois que c'était 58%, commençaient à dire il y a eu beaucoup d'immigrants dernièrement, on n'arrive pas à les accueillir. Alors le blâme n'était pas porté sur les immigrants eux-mêmes, mais plus sur les politiques du gouvernement libéral de pouvoir gérer en fait ce modèle-là. Et je pense que Poilievre s'est engouffré dans la brèche. Et on l'a beaucoup entendu critiquer le gouvernement sur le fait qu'on avait ouvert les vannes. Et il disait que le magnifique modèle d'immigration et du multiculturalisme qu'était le Canada était dévoyé, en fait, par le gouvernement Trudeau. Et pour lui, Poilievre, il faut comprendre que sa femme est vénézuélienne, est arrivée au Canada avec une famille comme ça qui est arrivée en réfugié. Donc il va pas commencer à critiquer les immigrants plutôt. C'est pas du tout son sujet. Mais il y avait besoin, bien évidemment, de trouver un argument pour expliquer que on ne pouvait pas soutenir le modèle économique avec tous ces immigrants qu'on pouvait faire entrer, que Trudeau avait voulu faire entrer. Pour des raisons dont on parlera peut-être plus tard, mais qui étaient une des failles sur lesquelles Poilievre voulait appuyer pour sans doute mener Trudeau à la démission à ce moment-là.
Donc des plutôt une stratégie politicienne, en effet un discours sur l'immigration qui n'a rien à voir avec celle des droites européennes notamment ou états-uniennes, parce que la situation personnelle de Pierre Poilievre, comme vous le disiez déjà, modère son discours sur ces sujets, et puis le contexte canadien par ailleurs n'a rien à voir et on va avoir le temps de le développer. Vous citiez un sondage de l'année dernière sur une opinion publique canadienne, c'est toujours un peu compliqué de parler en généralité comme ça, mais qui serait à 58% aujourd'hui à trouver qu'il y a trop d'immigration. Et déjà l'année précédente, en 2023, une étude avait fait grand bruit parce que ce sondage disait que 44% des Canadiens déjà trouvaient que leur pays accueillait trop d'immigrants. Et ce qui avait été intéressant, c'était la réponse du ministre de l'Immigration au Canada, Mark Miller, dont le rôle semble être davantage de convaincre les Canadiens qu'il faut continuer plutôt que d'attiser les tensions, puisqu'il avait dit dans ce sondage, on ne vous a pas demandé si vous vouliez voir baisser le PIB de votre pays. Or, c'est ce qui se passerait si on diminuait l'immigration. C'est un prix. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que.
Et en même temps, si je peux me permettre, quelques semaines donc après la publication de ces résultats du sondage, Mark Miller, donc le ministre de l'immigration, et je pense qu'il l'est toujours dans le gouvernement Carney, disait nous avons écouté les Canadiens, parce que je suis retournée sur son discours du 24 octobre 2024, où il dit nous allons réduire le taux de résidents permanents, mais surtout le taux de résidents temporaires. Nous avons écouté les Canadiens, et il le dit deux fois. Donc je pense que la pression avait été suffisamment mise sur les épaules du Parti libéral à ce moment-là pour pouvoir réajuster en tout cas les politiques. Parce que l'année précédente, ne serait-ce qu'un an avant, ils annonçaient des chiffres genre 580 000. Et puis ils allaient continuer comme ça à augmenter finalement l'arrivée d'immigrants, d'immigrants permanents. C'était ça, les chiffres les plus importants, c'est l'immigration permanente. Enfin, de résidents permanents.
Donc l'immigration en 2023 au Canada, c'était 500 000 arrivants, deux fois plus déjà que dix années auparavant. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, on recensait 270 000 admissions par an. Donc en effet, Les chiffres avaient augmenté. Alors, au-delà des chiffres, est-ce qu'on peut, Martin Papillon, avoir quand même une idée de quelle immigration parle-t-on, à la fois des nationalités au pluriel, qui sont ceux et celles qui s'installent au Canada ou qui y sont depuis déjà plusieurs générations, et puis comment viennent-ils? Est-ce qu'on parle, il y a plein de façons d'immigrer, et on ne dit pas immigrer d'ailleurs au Canada, on parle des immigrants. Qui sont-ils, qui sont-elles?
Peut-être avant, il faut quand même préciser au sujet de ces sondages qu'il faut les mettre en perspective, puisque ce même type de questions dans les pays européens ou aux États-Unis reçoivent des réponses beaucoup plus négatives par rapport au nombre d'immigrants qui sont accueillis. Et dans le même sondage, d'ailleurs, 68% des Canadiens ont toujours une opinion favorable envers les immigrants. Donc, comme vous l'avez bien dit, je pense que c'est important de faire la distinction entre l'opinion que peuvent avoir les Canadiens par rapport aux immigrants, aux personnes eux-mêmes et l'opinion par rapport aux politiques d'immigration, aux mécanismes de sélection, par exemple, des immigrants, au processus d'accueil de ceux-ci. Et donc, cette distinction-là est effectivement importante. D'où viennent les immigrants au Canada? Eh bien, c'est en fait une des caractéristiques du système d'immigration canadien, c'est que c'est une immigration qui est très diversifiée. Alors, on a une immigration d'origine sud-asiatique, une immigration d'origine asiatique, d'origine africaine, latino-américaine. Et donc, il y a une très, très grande diversité. Évidemment, cette diversité se reflète dans la composition du tissu social, notamment particulièrement des grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal, dans une moindre mesure. Et aujourd'hui, dans une ville comme Toronto, non seulement 50% de la population de la ville n'est pas née au Canada, ce qui est considérable. À titre comparatif, à Paris, par exemple, on parle d'environ 25%. Donc, c'est plus du double à Toronto. Et on parle à la maison plus de 200 langues à Toronto. Donc, c'est une immigration, disons, qui est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on retrouve, par exemple, en France.
Avec aussi une part d'immigration illégale ou pas, quand on parle toujours de ce chemin Roxham qui traverse la frontière entre le Canada et les États-Unis et qui arrive dans le village de Saint-Bernard-de-Lacolle, dans la province du Québec, Québec où vous êtes, Martin Papillon. Est-ce que, comment se représenter l'immigration illégale au Canada? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'elle a eu tendance à augmenter ces dernières années?
Oui, eh bien, tout d'abord, je me permets, si vous voulez bien, de vous corriger, puisque il y a une distinction importante à faire entre l'immigration dite irrégulière et l'immigration illégale. Ce n'est pas la même chose. Et là, lorsqu'on parle du chemin Roxham et des gens qui se présentent à la frontière canadienne au Québec pour revendiquer pour revendiquer l'asile politique, finalement, le statut de réfugié. Là, on parle d'immigration dite irrégulière. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas été sélectionnées par le Canada et qui viennent avec un permis de travail ou un permis d'études, mais plutôt des gens qui se présentent à la frontière pour revendiquer un statut, une protection
et entamer des démarches.
L'État. Voilà. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont au pays de façon illégale. Ils sont au pays de façon légale, régulière. Ils ont droit de rester au pays en attendant que leur statut soit déterminé. Et donc, effectivement, c'est pas, vous avez tout à fait raison. Par contre, cette immigration dite irrégulière, ces revendicateurs d'asile, il y a eu une augmentation considérable, notamment au Québec. On parle en 2023 de 144 000 demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière. Et 40 % de ceux-ci se présentent aux frontières du Québec, soit à la frontière terrestre, le fameux chemin Roxham, ou aux aéroports. Et donc, c'est un afflux considérable de personnes qui arrivent ici pour diverses raisons et qui se retrouvent finalement dans une situation beaucoup plus précaire que les immigrants qui arrivent à travers le processus d'immigration économique régulière, qui ont été sélectionnés en raison des besoins, par exemple, du marché de la main-d'œuvre.
Voilà, un processus qui est mis en place depuis très longtemps, qui avait tendance jusque-là à très bien fonctionner, mais les services administratifs aujourd'hui, pour certains, disent être croulés sous le nombre de dossiers et vouloir bien faire leur travail, c'est faire en sorte de, dans un premier temps en tout cas, d'étudier moins de dossiers, mais de le faire mieux. En tout cas, ce sont les arguments tels qu'ils sont présentés par le gouvernement canadien, entre autres, avec aussi la question du manque de logement. Du manque de logement, oui, peut-être on peut d'ores et déjà, Françoise Lejeune, en dire un mot. L'Agence fédérale du logement estime qu'en 2030, le Canada manquera de 3,5 millions de logements, qu'il faudrait plus que doubler sa capacité de construction pour remédier au déficit de l'offre. Est-ce que c'est ça l'argument essentiel aujourd'hui? C'est à travers le logement que le Canada dit pour l'instant devoir absolument freiner le nombre de nouveaux venus?
Oui, alors c'est vrai que ça a été une question. Alors, à partir du moment où on a, dans la campagne électorale, on a terminé de parler de Trump, etc., la première question, et d'ailleurs c'est revenu sur le tapis pas plus tard qu'hier, sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait, notamment pour le logement. Donc c'est un problème pour les Canadiens déjà de se loger. Le coût de la vie est très. Enfin, je veux dire, le logement coûte très cher, surtout dans les grandes villes ou proches des universités. Et il y a une grande compétition pour ce logement-là, et notamment pour des logements qui sont abordables. Et dans le fameux sondage de 2000 personnes, là, de 2024, dans les raisons qui étaient posées, dans les questions qui étaient posées aux répondants sur pourquoi vous pensez qu'il faudrait réduire l'immigration, le premier point, c'est ça, c'est le logement. L'accès au logement qui est compliqué pour les jeunes qui travaillent au Canada, les Canadiens. Donc c'est compliqué, bien évidemment, lorsqu'on reçoit des travailleurs temporaires ou des visas d'étudiants. Donc, la première question part de là, je pense. Et si vous vous souvenez, à l'automne 2024, lorsque Trudeau a annoncé qu'on allait réduire l'arrivée de nombre d'étudiants étrangers, ça venait de là aussi. C'était que dans les villes, justement, universitaires, on n'arrivait pas à trouver suffisamment de place pour des jeunes travailleurs, tout simplement, parce qu'il y avait une compétition forte qui était apportée par l'arrivée d'étudiants étrangers. Les étudiants étrangers qui, par ailleurs, sont une grande source de financement également pour beaucoup d'universités qui font leur beurre, je vais être un peu vulgaire là-dessus, mais qui font leur beurre avec l'arrivée d'étudiants étrangers, pas juste des mobilités d'échange, mais vraiment des recrutements d'étudiants pour pouvoir former des gens de haut niveau, des doctorants, ce qui est une politique comme une autre. Je pense que la première réduction des taux a été sur les visas temporaires, de travail temporaire, et sur les visas étudiants.
Voilà, parce qu'il faut distinguer l'immigration temporaire de l'immigration permanente. Or, Martin Papillon, on a l'impression que le Canada est en train de se diriger vers une politique nouvelle, qui est de favoriser l'immigration temporaire, ce qui veut dire quoi en termes de choix des personnes qu'on décide d'accueillir et celles à qui on dit « il n'y a pas de place pour vous pour l'instant ».
Oui, bien voilà, c'est un changement important dans les politiques d'immigration canadienne qui, à partir des années 60-70, se sont structurés, organisés autour d'un modèle de sélection des immigrants de type permanent. Et donc, on allait chercher, à partir d'un système de pointage, des personnes hautement qualifiées, éduquées, avec une connaissance soit de l'anglais ou du français, et on on sélectionnait finalement ces immigrants pour une immigration permanente. Alors, à leur arrivée au pays, ces personnes obtenaient un visa, un permis de résidence permanente au Canada et après quelques années, la citoyenneté. Ce mécanisme, ce processus d'immigration, aujourd'hui, c'est considérablement transformé puisque, bon, on continue à accueillir à travers le processus de sélection beaucoup d'immigrants, mais en fait, aujourd'hui, concrètement, la majorité des gens qui arrivent au Canada de façon régulière, à la légale, là, arrivent avec des permis de travail ou des permis d'études temporaires. Vous y avez fait allusion. Et là, on parle, depuis 2023, de plus de 800 000 personnes qui sont arrivées avec des visas temporaires à chaque année. Et donc, c'est plus que l'immigration dite permanente, qui est autour de 450 500 000 par année. Et donc... cette immigration temporaire-là, hein, visait, on a ouvert les vannes un peu de cette immigration temporaire pour des besoins, en raison des besoins économiques, en raison des besoins de la main-d'œuvre. Et c'est souvent, d'ailleurs, les employeurs et non le gouvernement qui sélectionnent, qui vont chercher ces personnes en fonction de leurs besoins. Que ça soit en matière de main-d'œuvre agricole, dans l'économie des services, et ainsi de suite. Et donc, parfois, ou même souvent, c'est aussi, ce sont aussi des personnes qui sont moins qualifiées, qui ont moins d'éducation et qui ne parlent pas nécessairement le français ou l'anglais, mais qui cherchent de façon tout à fait légitime à rester au pays par la suite. Et donc, on a un système pour pérenniser leur présence au pays, pour transformer leur statut de temporaire en permanent. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée un système à deux vitesses ou à deux étapes d'immigration. Immigration d'abord temporaire qui devient permanente par la suite, qui est en porte-à-faux un peu avec le modèle canadien d'immigration très, très sélectif qui vise à une immigration hautement qualifiée.
Qu'est-ce que c'est le modèle canadien très sélectif d'immigration? Et est-ce qu'il faut, Françoise Lejeune, le faire remonter aux années 70 à la politique de multiculturalisme définie par Pierre Elliott Trudeau, à l'époque Premier ministre, père de Justin Trudeau, le Premier ministre sortant là, actuel, enfin, qui a démissionné en janvier. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement ce multiculturalisme à la canadienne?
Au départ, c'était un projet, alors certains l'ont vu comme idéologique, après ça a été plutôt vu comme un projet de société, donc dont Trudeau parle pour la première fois à la Chambre des communes en 1971 et explique qu'il est plus que temps que le Canada devienne donc quitte son modèle biculturel et bilingue. Et je pense que Martin aura des choses à dire de son point de vue, puisque le Québec est en dehors de ce projet-là. C'était un contexte difficile à ce moment-là pour le fédéral, parce qu'il y avait beaucoup de tensions avec le Québec. Il y avait eu ce qu'on appelle la crise d'octobre. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'agitation, on va dire, politique, mais aussi d'activisme au Québec, qui revendiquait un statut plus autonome de société distincte. Il l'avait déjà dans les faits, puisque c'est une société déjà distincte avec une culture différente, mais qui ne voulait pas du tout accepter finalement qu'un autre modèle que l'idée des deux nations fondatrices. Or, dans les années 60, il y a eu une série d'enquêtes qui a duré plusieurs années, une commission sur le biculturalisme et le bilinguisme qui a traversé le Canada, qui a écouté les Canadiens. On pouvait suivre les émissions à la radio d'ailleurs, et on entendait d'autres voix. Donc ils étaient partis avec l'idée qu'on allait valider le projet du biculturalisme, et ils ont terminé 4 ou 5 ans après par dire au fait, il y a aussi d'autres groupes. Et ce qui avait marqué le plus les Canadiens, c'était la voix des Ukrainiens dans l'Alberta qui disaient « Mais nous, on n'est ni francophones ni anglophones et on compte pour du beurre, alors qu'on est là pour... On a apporté une culture et qu'on vit au Canada et qu'on travaille au Canada. » Donc, il y avait tout un débat sur « Et les autres cultures ?» Et finalement, Trudeau a choisi d'avancer sur ce modèle du multiculturalisme, ce qui l'arrangeait bien à ce moment-là pour... terminer un peu cette querelle intestine entre francophones et anglophones, mais aussi parce que ça positionnait un Canada plus moderne, ouvert, justement. Après avoir des années de racisme, le Canada n'était pas tout rose jusqu'à ces années-là. On sélectionnait beaucoup, on avait des quotas aussi qui étaient basés sur des origines ethniques. Hein, donc c'était un peu
par
compliqué.
Exemple.
Donc, par exemple, on avait limité, depuis le début du siècle, on limitait l'arrivée des Chinois, qu'on avait pourtant bien utilisés pour construire le train, etc. On avait enfermé, il y a eu des camps d'internement pour les Japonais après Pearl Harbor au Canada également. Donc, je veux dire, il y avait du racisme anti-noir aussi au Canada. Donc, Je veux dire, c'est pas un pays qui était forcément ouvert hein, sur l'autre, en tout cas jusqu'à la fin des années 50. Et donc, finalement, les années 60 changent un petit peu la perspective, mais aussi la marque de fabrique du Canada. Et je pense que c'est ce que voulait Trudeau, qui était un grand communicant. Père et fils sont des grands communicants, d'ailleurs. C'était l'idée d'inventer un nouveau Canada, en fait. Et pour ça, c'était le Canada accueillant. Et le choix du multiculturalisme, je me souviens de son discours. Enfin, j'étais pas à l'écoute, mais pour l'avoir lu et enseigné, donc... Il avait expliqué à la Chambre des communes que le Canada allait maintenant devenir à la fois divers, mais que c'était inclusif en même temps, c'est-à-dire qu'on allait valoriser les différentes cultures qui étaient déjà présentes au Canada dans les années 60 et montrer qu'ils participaient donc à la même société. Donc ce côté diversité et inclusion, c'était un nouveau modèle, je pense, qui valait aussi pour justement la nécessité d'apporter l'économie était au cœur de tout ça. Comment relancer l'économie, comment avoir de la main-d'œuvre, et ça participait de la valorisation du Canada comme un pays qui acceptait des immigrants parce qu'on avait besoin de forces, de forces vives, de forces jeunes aussi pour faire tourner le pays.
Et Martin Papillon, pourquoi le Québec était alors à cette époque-là en dehors de ce projet? Quelle était sa propre définition du multiculturalisme, à moins qu'il n'emploie à l'époque déjà un autre mot? Et question subsidiaire, comment le Québec aujourd'hui se positionne sur ces questions migratoires qui non pas reviennent sur le devant de la scène au Canada, ce serait faux, on a bien compris à vous écouter l'un et l'autre, mais en tout cas devient une question eu égard au manque d'infrastructures?
Oui, bien en fait, comme ma collègue l'a bien indiqué, le multiculturalisme canadien se construit à une époque, et on peut le dire un peu en réaction avec le projet nationaliste québécois, et cette idée aujourd'hui perdue un peu d'un Canada binational, un Canada qui serait constitué de deux communautés nationales, l'une francophone, l'une anglophone. Et donc au Québec, ce projet multiculturaliste, est un peu perçu comme un cheval de Troie hein, qui vient diminuer la portée de l'existence de cette nation québécoise distincte. Et donc, on est en porte-à-faux avec ce modèle et on développe au Québec, à partir des années 60-70, à la fois sa propre conception de la communauté politique québécoise autour d'une alternative au multiculturalisme qui est l'interculturalisme, on pourrait y revenir, mais aussi et surtout ses propres outils de sélection des immigrants. Et là, il y a des accords qui sont négociés entre le Canada et le Québec pour donner au Québec une plus grande autonomie en matière de sélection des immigrants, avec évidemment une forte valeur ajoutée à la connaissance du français dans le processus de sélection. Donc, le Québec, de plus en plus, opère en parallèle du reste du Canada, à la fois en ce qui concerne la sélection des immigrants, mais aussi le modèle d'intégration, qui n'est non pas le multiculturalisme, mais l'interculturalisme. Et c'est vraiment là, dans cette voie qui a été tracée à partir des années 70, qui aujourd'hui renvoie à une dynamique, je dirais, par rapport à l'immigration assez différente au Québec que dans le reste du Canada.
Et même encore aujourd'hui, le Québec reste un cas particulier dans la mesure où il prend beaucoup à sa charge avec l'Ontario voisin, l'arrivée des nouveaux venus. Comment le Québec se positionne dans ce débat-là aujourd'hui?
Bien voilà, c'est intéressant parce qu'alors qu'au Canada, l'opinion publique, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant dans les sondages dont on a fait mention tout à l'heure, hein, la perspective ou la perception des Québécois par rapport à l'immigration est pas différente de celle des autres provinces ou très peu. Il y a des variations là, mais c'est somme toute assez marginal. Par contre, le gouvernement du Québec et les partis politiques au Québec sont beaucoup plus mobilisés par rapport à la question de l'immigration que ce qu'on peut voir au Canada, dans le reste du Canada. L'immigration au Québec est vue beaucoup comme justement ou potentiellement comme une menace à l'identité canadienne, québécoise, et au fait français. Et donc, on a une crainte que l'immigration vienne transformer la société québécoise de façon importante. Et on insiste beaucoup au Québec sur le processus d'intégration, l'apprentissage du français, l'intégration à la société québécoise. Et donc, cette ouverture finalement à l'immigration très importante dans les dernières années au Canada, et notamment notamment l'immigration temporaire, qui ne fait pas l'objet là, d'une sélection précise, elle a été perçue beaucoup plus négativement au Québec qu'ailleurs au Canada.
Quant aux immigrants francophones, ils ne s'installent pas tous au Québec. Quand ils arrivent au Canada, certains vont par exemple en Alberta et doivent apprendre la langue. Les critères linguistiques, les critères d'apprentissage ont souvent été très élevés au Canada.
Les premiers pas que j'ai mis dans une organisation francophone m'a permis après d'améliorer mes connaissances en anglais. Quand on arrivait, comme j'ai dit, il y avait la barrière de la langue. On ne comprenait pas du tout l'anglais. Donc, on a eu cette chance-là. Quelqu'un nous a dit, allez à Bassan, où se trouve le centre d'accueil. On arrive, on trouve un monsieur là. Ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont aidés à améliorer les CV. Ils nous ont tout de suite trouvé un logement. Vraiment, on ne peut pas dire plus. On a été tellement bien accueillis par ce centre qu'on n'a même pas eu le... Tout le stress de la nuit a disparu.
Une dame ivoirienne arrivant au Canada en 2015, rencontrée à l'époque par RFI, qui donc se trouve très bien accueillie, qui veut apprendre l'anglais pour favoriser son intégration au Canada. Dans quelle mesure, Françoise Lejeune, ce qui est en train d'arriver au Canada, est-ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission, à savoir que progressivement est privilégiée une immigration temporaire, des permis de séjour temporaires qui vont répondre à des besoins ponctuels de secteurs d'activité précis sans nécessairement projeter à plus long terme une intégration de tous pour vivre au Canada jusqu'à la fin de sa vie, fonder une famille. Qu'est-ce que ça va changer? Enfin, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur un modèle d'intégration canadien? Est-ce que des critères sont moins élevés, vont le devenir? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer des conséquences de cette nouvelle donne?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de conséquences parce que si les résidents temporaires, et McCarney a expliqué qu'il va quand même réduire à 5% hein, les permis de résidence temporaire, donc je ne suis pas sûre que ce soit réajustement temporaire. On va maintenir 300 000 demandes de résidence permanente, plus donc tabler sur ceux qui sont déjà au Canada et qui souhaiteraient passer de temporaire à permanent. Néanmoins, pour devenir citoyen du Canada, vous devez quand même passer à travers des fourches codines. Vous avez à travailler sur vous avez à apprendre les valeurs du Canada, l'histoire du Canada plus que les valeurs aussi. Vous devez aussi maîtriser suffisamment une des langues, voire les deux langues, avant de pouvoir accéder à la citoyenneté. Donc je pense que ça ne changera pas grand-chose parce que de temporaire, si vous avez travaillé pendant 4-5 ans dans une usine dans l'Alberta, vous êtes obligé d'avoir parlé, vous êtes obligé de parler anglais, bien évidemment, parce que sinon vous ne pouvez pas travailler dans ce monde-là. Et puis, j'ai lu aussi que Carney voulait, ou c'était sa promesse de campagne, faire en sorte qu'il y ait au moins 12% de la population donc de futurs immigrants qui soient francophones, pas juste vers le Québec, bien évidemment, parce que le Québec a son propre moyen de recruter, mais pour vers les autres provinces. Donc je pense que cet engagement-là, il est important aussi. Donc Et les fonds qui sont alloués tous les ans sur le projet du multiculturalisme, qui sont votés, les budgets visent à ça, visent à financer les centres culturels ou financer les cours de langue. Donc le maintien de ce budget-là, tant que c'est le cas, et les libéraux, je pense, vont le maintenir au même niveau. C'est peut-être pas le cas si les conservateurs étaient passés. Néanmoins, les budgets seront, d'après ce que je comprends, maintenus. Parce que c'est important, bien évidemment, d'aider les gens à s'intégrer. Et on s'appuie beaucoup pour l'intégration sur, justement, ces petites associations dont parle cette personne qui arrive donc dans l'Alberta. C'est leur rôle. Donc, ils font des demandes de subventions tous les ans et leur but est de préparer les immigrants. Donc, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Je me souviens avoir vu un reportage il y a peut-être, 7-8 mois de ça, et c'était au Québec cette fois-ci, où il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui viennent d'Amérique latine. C'est une communauté qui n'est pas très développée aux États-Unis, au Canada, puisqu'ils s'arrêtent souvent aux États-Unis. Et on se rendait compte, en fait, qu'il y avait tous les ans des gens qui venaient travailler pendant 4-5 mois dans les fermes ou bien dans des usines, parce qu'on avait besoin d'eux, mais qu'on renvoyait chez eux parce qu'ils ne parlaient ni français ni anglais. Donc je me dis que j'espère, finalement, que pour pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir rester, parce qu'ils voulaient rester, mais ils n'arrivaient pas à parler suffisamment une des langues. Donc, je pense que ces programmes-là vont être intensifiés. Maintenant, je ne suis pas là pour... Je ne gère pas le Canada. Mais je ne pense pas que le modèle d'intégration va changer.
Des immigrants en provenance d'Amérique latine ou Amérique centrale, il y en a d'ailleurs beaucoup plus depuis 2016, quand Justin Trudeau a supprimé la nécessité pour les Mexicains d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire. Martin Papillon, est-ce que vous êtes d'accord à ce sujet? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, vous aussi, que le fait que le modèle, pour l'instant, d'accueil des immigrants au Canada ne change pas le modèle d'intégration canadien?
Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a très peu de gens au Canada qui remettent en question les fondements de ce modèle, à la fois le modèle d'immigration et le modèle d'intégration multiculturelle. Et donc, il y a un consensus assez fort au niveau politique sur ces questions. On critique le volume, si on veut, d'immigration. On critique aussi le gouvernement pour son manque de soutien au processus d'intégration dont ma collègue là, évoquait les grandes lignes. Et donc, il y a une critique des politiques par rapport à tout ça, mais il n'y a pas une remise en question, je pense, du modèle dans son ensemble. Sauf peut-être au Québec, encore une fois, où là, ces débats-là prennent une tournure différente avec les pratiques, les politiques de l'État québécois, mais aussi parce que le Québec est l'endroit où cette immigration irrégulière, donc les revendicateurs d'asile, arrivent en grande majorité. Et donc, cette pression migratoire qui est aussi associée à tort ou à raison à l'immigration, comme vous l'avez dit, illégale, crée un climat politique au Québec où il y a tout de même une résistance plus grande et une remise en question aussi peut-être plus importante du modèle d'intégration liée au fait justement que ces personnes arrivent avec une connaissance du français moins grande et donc potentiellement une capacité d'intégration moins importante. Maintenant, les chiffres ne montrent pas nécessairement que ces personnes s'intègrent moins bien. Mais tout est sur ces questions-là, c'est beaucoup une question de perception, voilà.
Alors que très longtemps, le Canada a dit qu'il était ouvert aussi parce que, du fait de sa culture, c'est un pays pionnier dont le peuple est issu de l'immigration, comme les États-Unis d'ailleurs, ce qui n'a pas empêché aux États-Unis d'avoir créé ou façonné des hommes et femmes politiques qui ont aujourd'hui un discours très dur sur l'immigration. Là, l'histoire ne compte plus, ce sont des prises de position sur des enjeux contemporains, mais le Canada est aussi un pays désertique, avec une densité, enfin désertique, qui a été très longtemps désertique, et aujourd'hui la densité atteint 4 habitants au kilomètre carré. C'est l'une des plus faibles au monde. Comment la question de la démographie pèse aujourd'hui, Françoise Lejeune, sur le débat autour de l'immigration? Qu'est-ce que, par exemple, ce groupe qui s'appelle l'Initiative du siècle, qui est un lobby qui a été cofondé par un ancien patron du cabinet de conseil McKinsey, qui avait donc l'oreille de Justin Trudeau pendant longtemps, et qui lui dit qu'il faut absolument que le Canada atteigne 100 millions d'habitants d'ici 2100. Aujourd'hui, le Canada compte 41 millions contre 35 il y a 10 ans. Pourquoi le Canada devrait-il absolument atteindre les 100 millions d'habitants d'ici 2100 et comment cette question de la démographie a pesé sur les débats sur l'immigration?
Alors, j'ai pas réponse particulièrement à la question de cette par rapport à ce rapport-là, mais globalement, le Canada est un pays vieillissant, comme chez nous. On fait pas vraiment d'enfants non plus. Et donc, pour soutenir la croissance, je pense qu'il y a besoin de continuer à faire venir des immigrants dans la force de l'âge. C'est-à-dire que si vous vous contentez de faire venir des immigrants permanents et ensuite de leur dire bah, « Maintenant, faites des rapprochements de conjoints et faites venir vos grands-pères et vos grands-mères », le résultat sera pas le même parce que bon, ça va peser quand même sur le système de santé, etc., etc. Donc, c'est l'idée de continuer à faire venir des gens dans la force de l'âge, à mon avis, parce que le modèle économique ne va pas se développer à la même vitesse, peut-être, que ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Voilà, je ne suis pas assez spécialiste de l'économie pour aller plus loin dans ma réponse.
Ce qu'on sait, c'est que 3% de la croissance de la population au Canada est liée à l'immigration, que dans certaines provinces, les immigrants représenteront bientôt 50% de la population, dans le Manitoba ou la Saskatchewan, par exemple. Alors, il y a des immigrants migrants de toutes nationalités, de toutes origines. Vous l'avez bien dit, ce modèle multiculturaliste dont le Canada est si fier. Parmi, par exemple, les populations, les communautés au Canada, il y a des communautés éthiopiennes et le groupe The Weeknd, de son vrai nom Abel Makonnen Tesfaye, est né à Toronto de parents éthiopiens. Il a été élevé par sa grand-mère et il raconte souvent que c'est elle qui lui a transmis au Canada la culture et l'amharic, la langue majoritaire éthiopienne. Blinding Lights, c'était un tube de The Weeknd, donc Abel Makonnen Tesfaye, né à Toronto, de parents éthiopiens immigrés, les Éthiopiens qui font partie des Vietnamiens, des Chinois, des personnes qui viennent du monde entier et qui sont retrouvent ici au Canada, qui est fier de son modèle multiculturaliste, nonobstant les prochaines mesures qui sont mises en place pour diminuer le plus possible l'immigration, mais sans remettre en cause ce modèle-là, exemple dans la communauté sikh, par exemple, à Toronto.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
J'ai l'honneur de vous recevoir à l'Hôtel de Ville. Nous sommes réunis pour célébrer, commémorer le Vaisakhi et célébrer la communauté sikh ici, à Toronto. En tant que maire, au nom de la ville de Toronto, du conseil municipal et de tous les conseillers, je suis fière de proclamer officiellement la journée Khaosa dans la ville de Toronto.
La maire de Toronto, Olivia Chou, à l'occasion du Khalsa Day, le jour de festivité pour les Sikhs qui sont au nombre de 800 000 aujourd'hui au Canada. C'est la plus grande communauté Sikh hors de l'Inde. Bonjour Mathieu Boisvert.
Bonjour Madame Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud-Est et sa diaspora à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde ce matin. Alors, on vient de fermer la porte sur le mois d'avril, qui au Canada est le mois du patrimoine sikh. Peut-être d'abord, comment est-il fêté ce mois du patrimoine sikh au Canada et par qui?
Bon, il est fêté essentiellement par la population sikh canadienne, bien entendu, et cette fête se passe dans les maisons, mais également dans les temples sikhs, qui sont appelés les gurudwaras. Alors, ce sont des célébrations qui sont plutôt intimes et à l'intérieur des lieux de culte sikh.
Des festivités, enfin ce mois du patrimoine sikh a été proclamé en 2019 au Parlement, initié par le chef du nouveau parti démocratique Jagmeet Singh, qui vient de démissionner, qui est lui-même originaire, qui a des racines, une culture sikh. On en parlera tout à l'heure. Quelles sont les racines de l'immigration sikh vers le Canada? Quand est-ce qu'elle a commencé, cette immigration, Mathieu Boisvert?
Bon, les Sikhs, en fait, sont dans les premiers ressortissants d'origine sud-asiatique qui sont venus au Canada au tout début du 20e siècle. Mais il faut comprendre que très rapidement, le Canada a mis un frein à cette migration sud-asiatique. Et ce n'est que vers le tout début des années 1980 qu'on commence à voir une arrivée massive tant des Sikhs que des Hindous au Canada. Et pour les Sikhs, il faut également comprendre que ceux qui qui migrent vers le Canada à cette époque arrivent sur le territoire canadien avec le statut de réfugiés politiques.
Parce qu'ils étaient persécutés en Inde à ce moment-là.
Oui. Et si vous me permettez un bref retour historique là qui est essentiel pour comprendre la communauté sikh à travers le monde, au moment de la création de l'Inde et du Pakistan, de l'indépendance de ces deux pays en 1947, il y a l'État du Punjab qui est divisé en deux. Une partie du Punjab devient pakistanais et l'autre indien. Mais c'est que ce Punjab est majoritairement sikh. Alors, en 47, on crée une Inde essentiellement hindoue et un Pakistan essentiellement pakistanais. Sikh, excusez-moi. Et les Sikhs, un Pakistan essentiellement musulman.
Musulman, voilà, j'étais en train de me demander. Oui. Dites-nous.
Oui. Mais c'est que les Sikhs, eux autres, revendiquent la création d'un État indépendant au Punjab. Et ça, pour l'Inde, ça ne passe pas, parce que de parler d'indépendance d'une section du territoire de l'Inde est considéré comme un acte de sédition.
Il y a notamment dans les années 70-80, notamment il y a des persécutions de la communauté sikh, particulièrement en 1984, l'invasion du Temple d'Or, lieu central de la foi sikh par l'armée indienne, à l'époque où Indira Gandhi était première ministre. Elle sera assassinée d'ailleurs quelques semaines plus tard par ses deux gardes du corps sikh. Invasion suivie d'arrestations et de persécutions. 8000 à 20 000 sikhs dans toute l'Inde sont assassinés à ce moment-là. Ceux qui choisissent d'aller au Canada, pourquoi le Canada?
Bon, parce que d'une part, le Canada c'est un pays du Commonwealth en raison de la présence britannique antérieure. Il y a une facilité pour les sikhs de migrer ou d'obtenir le statut de réfugié au Canada. Alors ça fait sorte que de 1980 à 1990, il y a un nombre important de sikhs qui vont obtenir le statut de réfugié et qui vont devenir par la suite citoyens canadiens.
D'accord, donc c'est essentiellement une facilité linguistique, aussi peut-être une liberté d'expression à laquelle ils ne sont pas habitués à ce moment-là.
Oui. Et ça, je me permets de souligner ceci, parce qu'au Canada, on peut parler de l'indépendance de la Catalogne, de l'Écosse, du Québec et également du Khalistan. Alors qu'en Inde, de discuter de l'indépendance du Punjab ou du Khalistan ou de la création d'un pays indépendant pour les Sikhs, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte de sédition et passible d'emprisonnement là.
Même si ceux qui continuent à militer pour un État sikh depuis le Canada sont parfois inquiétés, voire assassinés. Le service de renseignement de sécurité du Canada soupçonne, voire accuse aujourd'hui le gouvernement indien de ne pas être étranger à l'assassinat en juin 2023. De Hardeep Singh Nijjar. Vous en avez fait tout un article dans The Conversation. Peut-être un mot là-dessus. Ça a contribué à vraiment tendre les relations entre le Canada et l'Inde.
Oui. En fait, le Canada a accusé directement le gouvernement indien d'avoir commandité cet assassinat-là d'un ressortissant canadien d'allégeance sikh à l'entrée d'un gurudwara, à l'entrée d'un temple dans la région de Vancouver. Et ça a miné les relations diplomatiques indo-canadiennes là depuis 2024.
Le gouvernement indien accuse le Canada d'offrir un refuge au terrorisme khalistani qui existe. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que l'explosion d'un vol Air India en partance de Toronto vers New Delhi en 85, qui avait fait 329 morts, avait été diligenté par un groupe extrémiste sikh basé en Colombie-Britannique. Est-ce que ce groupe existe toujours au Canada?
Bon, le groupe lui-même a été dissous, mais je suis persuadé qu'il y a toujours des militants extrémistes sikh qui sont présents au Canada. Tout comme il y a également des militants extrémistes hindous. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a pratiquement 850 000 sikhs au Canada, mais il y a 900 000 hindous aussi qui sont présents au Canada, hindous d'origine indienne. Alors, il y a énormément de tensions entre ces deux communautés canadiennes sur le territoire.
On estime aujourd'hui la communauté sikh au Canada, donc très diverse. Bien sûr, certains peut-être sont aujourd'hui toujours militants politiques et d'autres pas du tout. Ils sont 700 000 personnes, à peu près, oui, un peu plus de 2% de la population au Canada, qui travaillent dans certains secteurs en particulier, ou pas nécessairement?
Oui, bon, l'agriculture, une partie de l'agriculture dans les provinces du centre du Canada, le Manitoba, le Saskatchewan, est entre les mains de personnes d'origine punjabi. Le transport par camion également, les Sikhs sont extrêmement présents à l'intérieur de ce secteur. Mais il faut comprendre que le secteur du transport, c'est essentiellement pour les premières générations de Punjabi au Canada, parce que les deuxièmes, troisièmes générations sont généralement beaucoup plus éduquées. Les parents mettent beaucoup d'emphase sur l'éducation et ça leur permet par la suite d'obtenir des postes assez différents, comme celui de Jagmeet Singh, justement, au nouveau Parti démocratique.
Alors, qui est-il, Jagmeet Singh, en quelques mots? Il vient de démissionner, mais il était jusqu'à mardi dernier le chef du nouveau Parti démocratique, la gauche canadienne. Il est d'origine sikh, né à Ontario, dans la région du Grand Toronto, deux parents immigrants indiens originaires du Punjab. Est-ce que pour autant il portait aussi une forme de est-ce qu'il représentait la question sikh, pour le dire très vite? Est-ce que les sikhs du Canada, aussi nombreux et divers soient-ils, votaient massivement pour lui parce qu'il est sikh?
Non, pas du tout, parce qu'il représente un parti de gauche. Et souvent, pour les nouveaux arrivants, on choisit plutôt un parti un peu plus conservateur pour assurer, parce qu'on a l'impression que l'économie irait mieux. Alors, les membres de la communauté sikh canadienne ne votent pas pour le nouveau parti démocratique, ils sont plus pour le parti libéral, ou voire même le parti conservateur. Mais ce qui est intéressant avec Jagmeet Singh, c'est qu'il a toujours porté avec fierté les symboles sikhs. Et il se revendique lui-même comme un sikh pratiquant. Il fréquente régulièrement le gurudwara, le temple sikh. Ceci étant dit, je ne pense pas que son allégeance sikh n'ait d'impact direct sur la politique canadienne. On lui a déjà demandé s'il accepterait ou défendrait un Khalistan qui deviendrait indépendant. Et il a dit bien sûr, tout comme je supporterais également un Québec indépendant si l'ensemble de la population québécoise le désirait, justement, cette indépendance.
Alors lui, même s'il a été aux affaires allié à Justin Trudeau de 2022 jusqu'à septembre dernier, quand il a claqué la porte de la coalition en reprochant à Justin Trudeau de céder à la cupidité des entreprises, on sait néanmoins, on l'a expliqué mardi, que son parti a pesé pour prendre plusieurs mesures d'ordre social. Est-ce qu'il a pesé aussi sur des questions migratoires et vice-versa? Est-ce qu'il a pesé à la fois sur les questions migratoires et quelles sont les conséquences des nouvelles politiques migratoires dont on parle depuis le début de cette émission sur la communauté sikh? D'après vous, aujourd'hui, Mathieu Boisvert, est-ce qu'on en a déjà des premiers échos?
Oui, je ne pense pas que le nouveau Parti démocratique ait une influence quelconque là sur les politiques migratoires actuelles canadiennes. Ceci étant dit, les nouvelles politiques vont avoir un impact important parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Sikhs Punjabi qui utilisent en fait les études, qui viennent au Canada avec un visa d'études dans le but de s'y installer. Et là, le Canada, comme on dit chez nous, resserre la vis et est beaucoup plus frileux dans l'émission de visa, de permis d'études au Canada pour les ressortissants indiens et particulièrement sikh punjabi.
Merci beaucoup Mathieu Boisvert d'avoir été avec nous. Vous avez écrit dans The Conversation un article sur la relation entre l'Inde et le Canada à travers la question sikh. Nous mettons le lien sur le site de Culture Monde. Merci d'avoir été avec nous et je remercie aussi Françoise Lejeune, professeure d'histoire et de civilisation britannique et nord-américaine à l'Université de Nantes, ainsi que Martin Papillon, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, qui était avec nous en direct depuis Montréal où il est très très tôt ce matin, pour clore cette série tout entière au Canada consacrée. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous parlez ce matin, Catherine, d'un pays qui espère bénéficier de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine cette fois.
C'est une aubaine pour le Brésil, titre le Financial Times. Une bénédiction même, selon le média brésilien G1 du groupe Globo, car les producteurs de soja brésiliens espèrent supplanter leurs rivaux aux États-Unis dans les échanges avec la Chine. Le journal économique Nikkei Asia a d'ailleurs vu affluer une quarantaine de navires remplis de soja brésilien dans le port chinois de Zhoushan ce mois-ci, sur la côte de la mer de Chine orientale. C'est une augmentation de 48% par rapport à avril 2024. Dans le même temps, les exportations de soja des États-Unis vers la Chine sont en chute libre, indique le journal chinois Global Times, Nikkei Asia et la chaîne Al Jazeera. Alors pour se rendre compte de ces changements dans les flux commerciaux, le New York Times nous donne quelques chiffres. Plus de la moitié des exportations américaines de soja étaient destinées à la Chine l'an dernier, notamment aux éleveurs de poulets et de porcs chinois. Mais leur prix vient d'augmenter de 125% en raison des droits de douane imposés par la Chine en réponse aux 145% de droits de douane décidés cette fois par Donald Trump sur la majorité des produits chinois entrant aux États-Unis. Le président républicain le répète à longueur d'interview, comme le montre Bloomberg, son rempart de droits de douane va faire souffrir la Chine et faire renaître les produits made in USA. Mais cette vision se heurte à une dure réalité, alerte Investigate Midwest. Il n'existe pas de substitut national aux États-Unis à la Chine pour le soja. Des États comme l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota, les principaux exportateurs de soja des États-Unis, précise encore Investigate Midwest, dépendent des acheteurs internationaux. Cette guerre commerciale lancée par Donald Trump est une menace pour notre mode de vie, pour notre existence, confirme Heather Feuerstein, photographiée par le New York Times dans sa ferme près de Grand Rapids dans le Michigan.
Donald Trump pourrait donc aider sans le vouloir les producteurs de soja brésiliens.
Comme lors de son premier mandat et de sa première guerre commerciale contre la Chine, rappelle la BBC. Si Pékin ne peut plus s'approvisionner aux États-Unis, ses agriculteurs devront en acheter davantage au Brésil et payer plus cher, estime Neusa Lopes, qui travaille chez Girasol Agricola, un important producteur de soja de l'état du Mato Grosso. Son entreprise cultive du soja et du maïs sur plus de 70 000 hectares, l'équivalent presque des 5 quartiers de New York. Cette agricultrice peut désormais vendre un sac de soja de près de 60 kilos pour 21 dollars l'unité, soit une hausse de 10% par rapport au mois dernier. La majeure partie de sa récolte, indique le New York Times, part en Chine, qui est déjà le plus gros acheteur de soja du Brésil. Neusa Lopes espère même gagner davantage et elle n'est pas la seule.
Pela primeira vez, o governo chinês afirmou oficialmente que a soja do Brasil pode substituir os grãos dos Estados Unidos.
Pour la première fois, le gouvernement chinois a officiellement déclaré que le soja brésilien peut remplacer celui des États-Unis dans l'approvisionnement de la Chine et c'est très positif pour notre secteur agricole, s'enthousiasme un journaliste du OL Noticias au Brésil. Il fallait s'y attendre, explique l'un de ses collègues. Les producteurs de soja disent qu'il y a une opportunité à saisir, mais d'autres secteurs et les consommateurs brésiliens pourraient bien partir, eux, de cette guerre commerciale, prévient UOL Noticias. Si le secteur agricole brésilien se frotte effectivement les mains, confirme le journal Gazeta des Povo, l'industrie brésilienne craint, elle, de faire les frais de cette guerre commerciale lancée par Washington, ajoute le quotidien O Estado de São Paulo et CNN Brasil, qui craint notamment pour les exportations de pièces automobiles du Brésil vers les États-Unis.
Les États-Unis et le Brésil tentent donc de s'organiser à long terme.
Des organisations comme l'American Soybean Association tentent de développer des marchés en Inde, par exemple, explique le New York Times, ou en Égypte. Et puis, des chercheurs étudient le soja aux États-Unis pour voir comment on pourrait en faire un biocarburant. En attendant, l'administration Trump envisage un plan de sauvetage agricole, comme lors du premier mandat du président républicain, annonce le Wall Street Journal, une reconnaissance tacite que les droits de douane nuisent aux agriculteurs sur le sol des États-Unis, mais rien ne garantit, prévient le New York Times, que cela compensera toutes les pertes. Lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en 2016, le Brésil représentait 46% des importations chinoises de soja, rapporte Investigate Midwest. L'an dernier, cette part a grimpé à 71%. Et sur la même période, la part des États-Unis a diminué de plus d'un tiers. D'autres pays d'Amérique du Sud tirent leur épingle du jeu aujourd'hui. L'Argentine annonce le quotidien local Clarín, le Paraguay ou encore l'Uruguay. Pékin se dit beaucoup moins pressé que Washington pour négocier sur les droits de douane, assure ce matin Yu Yuan Tantian, selon ce réseau social affilié à la télévision d'État chinoise CCTV. L'administration américaine a pris l'initiative de nombreux contacts bilatéraux ces derniers jours. En matière de négociation, les États-Unis sont incontestablement la partie la plus pressée, confirme le South China Morning Post, car l'administration Trump, souligne encore le réseau Yu Yuan Tantian, fait actuellement face à la pression économique, mais aussi à l'opinion publique.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, vous retrouverez comme chaque vendredi Mélanie Chalandon et ses invités. D'abord pour une table ronde consacrée au Yémen sous les bombes américaines avec le chercheur Laurent Bonnefoy et le journaliste Quentin Muller. Table ronde précédée d'un retour de terrain spécial Gaza. Comment parler d'un territoire où les journalistes étrangers sont totalement interdits d'accès avec Frédéric Mettezo, ancien correspondant de Radio France à Jérusalem et aujourd'hui rédacteur en chef de Forbidden Stories, cette association qui reprend des enquêtes de journalistes tués pour continuer leur travail. Et c'est le cas notamment à Gaza. Beaucoup de journalistes ont été tués, y compris palestiniens.